Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le noter ou à le commenter.
Rappelons-nous que la richesse des musées accumulés à Berlin, Londres, Bruxelles, Tervuren, Lyon, Paris, etc., est une richesse d'emprunt.
Bonjour à vous, c'est Pascal Claude. Tout de suite, nous creusons cette question. À qui appartient la beauté? C'est en compagnie de Bénédicte Savoie.
La première.
Et Dieu dans tout ça.
Pascal Claude.
À qui appartient la beauté? La question est rhétorique. La beauté n'appartient certainement à personne. Pourtant, depuis le XVIIIe siècle et l'invention des musées tels que nous les connaissons aujourd'hui, certains objets ont précisément été choisis et exposés pour leur beauté. Objets de désir, ils ont été achetés, volés, cachés, pillés, offerts ou donnés. Ils n'ont cessé de susciter des germinations, des fécondations esthétiques, des cristallisations inattendues. Cependant, tout objet transporté d'un endroit à un autre crée aussi un manque, là où il n'est plus. C'est pourquoi nous épouserons tour à tour le regard de l'admirateur dont la fascination peut conduire à l'acquisition ou au ravissement de l'œuvre en question et le point de vue des dépossédés chez qui le sentiment de perte, d'injustice, d'absence peut conduire à l'indignation et à la réclamation. C'est ce qu'écrit notre invité Bénédicte Savoie est à nos côtés. Une définition de l'initiation, c'est tout à l'heure dans notre grand dictionnaire avec le professeur Jean-Philippe Schreiber. Soyez les bienvenus dans Dieu dans tout ça. Bénédicte Savoie, vous êtes né en 1972 à Paris, vous êtes professeur d'histoire de l'art à l'Université technique de Berlin. Vous faites partie des personnalités les plus influentes du monde de l'art. Avec l'économiste sénégalais Félouine Sarr, vous avez adressé en 2018 au président français un rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. Vous êtes l'autrice de plusieurs livres. En 2023 a été publié Le long combat de l'Afrique pour son art et vous revoici avec un essai qui a pour titre À qui appartient la beauté? Nous allons bien sûr en parler, mais d'abord faisons connaissance. Pourquoi aimez-vous tout particulièrement le mot doux, Bénédicte Savoie?
Je ne suis pas tout à fait sûre de l'aimer, mais j'aime la douceur et j'aime en particulier les manières douces d'exprimer des idées ou des opinions fortes. C'est-à-dire que j'aime peu les cris, je déteste les cris et j'aime bien essayer de dire des choses difficiles à faire passer parfois de manière douce. Quand c'est moi qui ai un rôle actif dans la douceur et j'aime bien à sens inverse quand c'est quelqu'un d'autre qui exprime ses opinions qui peuvent être opposées aux miennes ou de les entendre sous une forme douce et c'est devenu de plus en plus rare à notre époque.
Vous avez vécu avec un grand peintre, l'allemand Johannes Grützke, c'est le père de vos deux filles, et vous avez vous-même été peintre. J'ai d'ailleurs lu que l'homme de théâtre français Jean-Luc Lagarce avait acheté l'une de vos toiles. Vous avez abandonné la voie artistique, Bénédicte Savoie?
Non. Je trouve que ce que je fais maintenant, ça reste une voie artistique. J'ai simplement transformé cette forme de créativité d'autrefois en une pratique et un goût pour les archives, pour les faits historiques et pour la mise en lumière de ces faits historiques. Donc, il faut une certaine créativité pour descendre avec une lampe de poche, disons, en particulier dans les archives sombres de notre histoire commune, de notre histoire européenne. Une créativité d'abord pour
faire de l'histoire, c'est un art?
C'est une créativité, il faut trouver une manière, c'est une méthodologie, c'est un artisanat, disons. Il faut des techniques pour le faire, dans certains domaines en tout cas. Et le domaine qui m'occupe moi, c'est un domaine où il a fallu, ces dernières années, faire sauter beaucoup de verrous, notamment dans des institutions qui ne voulaient pas livrer les informations. Donc pour ça, il faut une forme de créativité, une forme de technique qui devient au bout d'un moment une expertise, disons. Et j'aime l'idée que le métier que je fais est un métier manuel, c'est-à-dire un métier qui passe par l'intellect, les théories, etc., mais qui est un métier qui oblige aussi à savoir, à avoir des savoir-faire.
Vous avez besoin de vos mains
concrets? Oui, tout le temps. Pour prendre en main un sujet, par exemple. C'est une métaphore, mais c'est beaucoup plus qu'une métaphore. Prendre en main un sujet, ça veut dire lui donner une forme, que peut-être il n'avait pas, ou adopter une perspective sur lui en le tournant avec ses mains, d'une telle manière qu'on le voit autrement que les habitudes. Et pour être un peu plus concrète, les questions qui m'occupent depuis assez longtemps maintenant sont les questions de spoliation d'œuvres d'art, de dépossession ou d'appropriation. Et en fonction que vous, avec vos mains, vous tournez l'objet dans la lumière de vos outils méthodologiques du côté du vainqueur ou du côté du vaincu, il en sort quelque chose de très différent. C'est très différent de voir, par exemple, le buste de Néfertiti devant vous dans un musée, avec seulement vos yeux, on ne peut pas la toucher. Là, les mains, c'est vraiment les mains attachées dans le dos. Ou de sentir son absence, enfin la présence très forte de son absence sur le lieu où elle a été extraite il y a 100 ans, 110 ans.
On va y revenir tout à l'heure au cas de ce buste de Néfertiti. Mais la peinture, pour vous, c'est terminé ?
Oui et non, je suis devenue historienne de l'art. Donc la peinture est en particulier dans sa dimension matérielle.
Comment Mais vous, est-ce que vous peignez encore ?
Ah, vous voulez vraiment que je parle de moi ? Bah, en fait, moi, j'aime pas beaucoup parler de moi et je trouve que ce que je fais, c'est moi. Vous voyez, je fais pas une grande, très grande différence. Mais non, je ne peins plus. J'ai fait beaucoup de peinture. J'ai repeint entièrement quand j'avais 14, 15 ans. C'est pour qu'on parle de moi maintenant. Après, on arrête.
D'accord.
Tous les murs de ma chambre jusqu'au plafond avec de la laque pour salle de bain qui sentait très mauvais. On ne pouvait plus entrer dans cette chambre pendant des semaines après parce que je pense que c'était absolument toxique. J'allais enfant, enfin ado, parce que c'était gratuit, au centre Pompidou avec mes copains et mes copines. Et on s'installait par exemple dans le jardin d'hiver de Dubuffet qui était une espèce de grotte tout à fait propice aux activités des adolescents. Ensuite, j'ai en effet fait quelques expositions. J'ai eu le privilège de rencontrer Jean-Luc Lagarce quand il était déjà malade. J'ai aimé peindre. Et puis, quand vous vivez avec un vrai peintre, qui était Johannes Grützke, que vous avez évoqué, le père de mes filles, Marie et Louise, vous sentez que être peintre ou être artiste, ça répond vraiment à une urgence intérieure, disons, à laquelle on ne peut répondre qu'en étant peintre. Et pour moi, être peintre, c'était plus décoratif, disons. C'était pas répondre à une urgence intérieure. Et donc, progressivement, au fil des hasards de la vie, je suis plutôt devenue universitaire. Mais pour ce qui me concerne, je ferai pas une différence disciplinaire très forte entre nos différentes pratiques, que ce soit celle des artistes, des personnes qui font du cinéma, ou moi qui fais de l'histoire. Finalement, on est sur des sujets souvent communs et il me semble que le sujet compte plus que la méthode.
Sujets qui répondent aussi chez vous à une urgence intérieure ?
Sujets qui répondent initialement au début, donc s'intéresser aux questions de déplacement d'œuvres d'art forcées en temps de guerre, en temps d'asymétrie structurelle. Ça répondait d'abord à une curiosité. J'ai fait mes premiers travaux sur ce que j'appelle les spoliations artistiques de Napoléon en Allemagne. Donc, au début, c'était plutôt, tiens, ah bon, Napoléon était en Allemagne. Et puis ensuite, tiens, ah bon, ah, il a vidé tous les musées publics allemands de l'époque et tout ça est venu au Louvre. Ah, et c'est ça, la naissance du Louvre. Voilà, il y avait une curiosité, une envie d'en savoir plus. Et au fil des décennies, cette curiosité s'est muée en urgence au sens où les questions qui m'occupent maintenant, c'est-à-dire celles de l'appropriation du patrimoine des autres, en particulier dans des contextes coloniaux, touchent des points d'histoire qui dépassent largement la question des patrimoines et des musées, mais posent plutôt la question de notre rapport aux autres, il y a 100 ans, mais aussi aujourd'hui, et surtout de celui qu'on souhaite avoir à l'avenir.
À qui appartient la beauté ? C'est le titre de votre nouveau texte, Bénédicte Savoie. La beauté, c'est quoi en fait pour vous ?
La beauté, c'est en tout cas ce que les musées fabriquent en prenant quelque chose qui n'était pas forcément une pièce faite pour être de la beauté et en la mettant avec une lumière particulière, dans une vitrine particulière, avec un silence particulier autour d'elle, un vide parfois, pour qu'on puisse se concentrer sur elle. Donc la beauté, c'est certainement dans nos sociétés occidentales une expérience qu'on nous demande de faire dès qu'on est petit enfant. On va au musée pour expérimenter la beauté. Évidemment qu'il y a mille autres formes de beauté, la beauté d'un paysage, la beauté d'un regard, la beauté d'un mot. Mais en tout cas, dans le domaine qui m'occupe, la beauté, c'est une fabrication. C'est la fabrication de quelque chose d'unique. Et les musées, les institutions qui mettent en scène cela, aiment quand le choc ou le contact entre un visiteur, une visiteuse et cette chose qu'ils ont mise en scène pour en affirmer, en magnifier la beauté, quand il se passe quelque chose entre les deux. Là, c'est un musée qui qui est content quand Picasso s'enflamme pour l'art africain, pour sa beauté. L'opération est réussie.
On fabrique la beauté, dites-vous. On a fabriqué la beauté dans les musées. Et puis on l'a imposée aussi à celles et ceux qui sont venus visiter en nous disant, dès notre plus jeune âge, voilà, ce que tu regardes là, c'est beau.
Voilà. Et non seulement c'est beau, mais il faut que tu comprennes que c'est beau. Et peut-être même que si tu es vraiment bien réussi, il faut que tu aies une émotion esthétique. C'est cette pratique-là qui nous est très commune et qui d'ailleurs met certaines personnes mal à l'aise, qui sont moins habituées à ces pratiques-là et qui
se sentent
dans un lieu. Oui, ou soit se sentent exclus, soit se sentent pas à la hauteur, ce qui est pire. Se sentir exclus, c'est se dire « on m'a pas ouvert la porte ». Donc c'est un peu scandaleux, on peut se révolter contre une exclusion. Mais se sentir pas à la hauteur, c'est une forme d'humiliation, finalement. Quand on fait sentir à quelqu'un qu'il n'est pas assez formé ou pas assez cultivé pour ressentir quelque chose au musée. Donc ces musées, en général, souvent, ou pendant longtemps, ont été des lieux d'exclusion, en effet, ou de séparation, presque de ségrégation, de l'accès à certaines choses, à certaines émotions, disons. Et ces questions-là m'intéressent beaucoup, mais m'intéressent encore plus ce qui est caché derrière la beauté, la mise en scène de la beauté, c'est-à-dire ce que ces institutions qui vont mettre le buste de Nefertiti, sublime beauté, derrière quatre vitres, ce qu'elles ne racontent pas de la manière dont ce buste est venu à Berlin, par exemple, ou il y a quelques années.
Les questions de domination, en fin de compte, Bénédicte. Ouais.
Les questions soit de domination, qui est presque un terme trop abstrait, parce que dans un grand nombre de cas, pas tous les cas bien sûr, mais un grand nombre de cas, on est dans des questions de violence militaire. Par exemple, on peut dire que du sang est collé sur les pièces qui ensuite ont été transformées en belles pièces de musée. Puisque, en tout cas dans les premières décennies de la colonisation du continent africain, pour ne parler que de lui, ces années de colonisation, de conquête territoriale sont des années militaires. Certains collègues parlent même d'une guerre mondiale zéro. Et c'est au moment de cette guerre mondiale zéro, c'est-à-dire de cette couverture militaire large du continent africain par les armées françaises, allemandes, belges, britanniques, etc., qu'arrivent dans nos musées européens des grandes quantités d'objets, qui sont des trophées de guerre. Donc on est loin des questions de beauté. Souvent au musée, on est très près de questions d'histoire militaire qui sont surprenantes au début. Et au début, quand on est historien ou historienne de l'art et qu'on s'intéresse à la provenance, comme on dit, de ces pièces, on s'attend peu à trouver des descriptions de villages brûlés, de cases arrachées, de viols collectifs,
Qu'est-ce
etc. Et
dans se certains cache cas. Derrière la beauté, c'est la question que vous nous envoyez.
Voilà, la face sombre, quoi.
Dans votre texte, dès les premières pages, vous nous invitez, nous les Européens, je vous cite, à un minuscule effort d'introspection pour entrer, je vous cite toujours, en empathie avec les dépossédés, comme vous les appelez. En quoi consiste ce minuscule effort d'introspection, Bénédicte Savoie ?
L'effort est minuscule parce que nous aussi, les Européens, ou ceux qui vivent en Europe, nous avons fait l'expérience par le passé de la dépossession. Si on prend la Belgique, par exemple, qui est un État assez récent, il a fait l'expérience au moment de la Révolution française et jusqu'à 1815 du transfert d'un grand nombre de ses œuvres majeures de l'histoire de l'art à Paris, avec l'idée que Paris, devenue capitale des arts et donc de la liberté, devait rassembler en elle le patrimoine européen, donc non seulement italien, allemand, polonais, mais aussi flamand, par exemple. Et les débats qui ont eu lieu, par exemple, à ce moment-là, autour de 1800, pendant la Révolution française et dans les années qui ont suivi, ont été menés en Belgique, en Allemagne. Les personnes qui parlent de ça à cette époque-là, c'est Goethe en Allemagne, c'est les frères Grimm, c'est le philosophe Schopenhauer, sa mère, Johanna Schopenhauer, en France, c'est Chateaubriand, etc., Stendhal. Donc, toutes ces choses ont été discutées. Ces choses, c'est-à-dire l'appropriation du patrimoine d'autrui par la force, caché par une rhétorique de l'universalisme. Et donc, le minuscule effort d'introspection, c'est de relire ces textes anciens, l'histoire, et de se souvenir comment ceux qui ont été dépossédés de leur patrimoine l'ont vécu. Mais en général, ils l'ont vécu très mal. Et combien, par exemple, la grande restitution de 1815, le moment où la France a dû rendre aux pays européens ce qui leur avait été pris, et aussi à la Belgique, ont été des moments déterminants pour la conscience patrimoniale de ces pays-là, pour le paysage muséal de ces pays-là. Les grands musées, les grandes décisions. Est-ce qu'on remet une œuvre qui a été prise dans une cathédrale flamande? Est-ce qu'on va la remettre dans la cathédrale? Ou est-ce qu'on va la mettre au musée des Beaux-Arts de la ville la plus proche? Toutes ces discussions-là ont eu lieu en Europe et elles nous permettent de comprendre que, hors de l'Europe, les sentiments ne sont pas très éloignés de ceux qu'on a eus nous-mêmes en Europe.
C'est ça. Donc ce que vous nous dites, c'est que pour répondre à la question des débats actuels autour des restitutions, il nous faut d'abord regarder en face notre histoire.
Absolument. La regarder en face, s'en souvenir, et du même coup, se dire que les autres, entre guillemets, disons les populations de l'actuel Cameroun, de l'actuel Bénin ou même du Vietnam, disons, ne sont pas si différentes que nous, que l'attachement aux traces matérielles de son histoire existe partout. Toutes les sociétés, depuis l'Antiquité, depuis très longtemps, sont attachées à la transmission d'une partie de leur patrimoine matériel. Et si vous leur prenez leur patrimoine matériel, ben, y a une rupture de transmission qui est douloureuse dans bien des cas. Et qui peut conduire à des amnésies historiques, à des amnésies mémorielles, c'est-à-dire qu'on oublie qui on est. Et c'est très important de savoir que ça nous est arrivé à nous et de se souvenir que les autres, entre guillemets, le musée des autres, nos musées d'ethnographie ont infligé à d'autres régions du monde des choses que les personnes, les groupes sociaux, les intellectuels, les gens normaux dans ces pays-là ressentent comme ont pu les ressentir nos ancêtres ici en Europe, c'est-à-dire avec douleur, colère, traumatisme, etc.
Plutôt que de parler de spoliation, de pillage, de vol ou d'appropriation, vous avez un terme que vous préférez, vous parlez de translocation patrimoniale. Pourquoi ?
Les termes que vous avez évoqués juste avant, pillage, conquête artistique, etc., sont des termes qui, en eux-mêmes, encapsulent la perspective de l'histoire. C'est-à-dire que si vous parlez, comme le font ou l'ont fait longtemps les Français, de conquête artistique révolutionnaire, vous parlez depuis la position du vainqueur, de celui qui s'est approprié les tableaux belges. Tandis que du point de vue de la Belgique, on va parler plutôt de spoliation révolutionnaire ou de spoliation artistique. Et ce point de vue, il dicte, enfin la terminologie, quand vous utilisez ces mots-là, c'est comme si vous mettiez vos pieds dans les pantoufles d'une historiographie déjà écrite. Vous aurez soit le point de vue du vainqueur, soit le point de vue de la victime. Et ce qui me paraît très important dans les questions qui nous occupent, si on les aborde de manière douce, pour reprendre votre introduction, si on les aborde dans l'idée d'une nouvelle éthique de la relation, c'est justement d'arriver à avoir les deux points de vue en même temps, de les combiner. Et un terme comme translocation, qui est sans doute un peu neutre, il a l'avantage de permettre de changer de point de vue. On parle translocation, dans le terme même, c'est le lieu qui est au centre, locus, le lieu, et la location en fait. Et la translocation, c'est le changement de lieu. Et en chimie génétique, le terme translocation, on parle aussi de patrimoine génétique. Là, nous, on parle de patrimoine artistique. La translocation, le changement de lieu, implique des changements de la chose elle-même. Une pièce qui change de lieu, qui passe par exemple du sable d'Égypte, où elle a été enterrée pendant 20 siècles, à la lumière de l'île des musées à Berlin. Une pièce comme donc le buste de Nefertiti, par exemple, change complètement de statut en changeant de lieu. Et si elle revient ou si elle revenait un jour dans son lieu d'origine, elle aurait à nouveau un autre statut. Et tout ça, ces changements de lieu et de statut et de valeur, c'est les questions qui m'intéressent beaucoup. Et je trouve que quand on en parle, on enrichit encore notre expérience du musée quand on a la chance de pouvoir en faire, comme nous les Européens, où on ouvre des perspectives qui n'existent pas en général dans ces discours-là.
Translocation, qui, comme vous l'avez dit, est un terme de chimie génétique qui désigne, et là je cite un extrait de votre texte, un échange entre chromosomes provoqué par cassure et réparation. Cassure et réparation, cette définition, elle illustre bien les enjeux des restitutions des œuvres d'art ?
Oui. On parle de restitution aujourd'hui, du débat sur la restitution, mais c'est un terme que d'autres utilisent en combinaison avec réparation, reconnexion, même avec l'idée du soin, de reprendre soin, de penser, penser EN, mais aussi de penser AN, comme on pense une plaie.
C'est ça.
Et tout ça marche ensemble, en effet.
Et Dieu dans tout ça, Pascal Claude.
énigmatique et fascinante, on dirait qu'elle nous pose directement la question « À qui appartient la beauté ?» C'est ce qu'écrit notre invité Bénédicte Savoie, professeur d'histoire de l'art. Vous signez, Bénédicte Savoie, un essai qui a pour titre justement « À qui appartient la beauté ?» Et sur la page de couverture apparaît cette icône de la beauté et de la féminité puissante qui continue d'exercer son pouvoir de séduction sur le monde entier, comme vous le précisez. Il s'agit de Néfertiti, le buste de Néfertiti conçu en 1340 avant Jésus-Christ, en Égypte, découvert au début du siècle dernier par un archéologue allemand et exposé aujourd'hui dans un musée à Berlin. Ça fait combien de temps que l'Égypte le réclame, ce buste de Néfertiti ?
Ah, c'est une question à double fond, puisque l'Égypte le réclame depuis qu'elle est indépendante, depuis que c'est un État indépendant dans les années 20, mais qu'elle a été d'abord réclamée un peu avant par la France, puisqu'à l'époque où Néfertiti est sortie d'Égypte, l'Égypte n'était pas un pays indépendant, c'est la France qui donnait les autorisations de sortie. C'est elle, la France, le service des antiquités d'Égypte, tenu par des Français, qui a autorisé tout à fait légalement, juste avant la Première Guerre mondiale, la sortie de cette pièce majeure et d'autres trouvées sur le même site. Et que après la Première Guerre mondiale, après les horreurs de la Première Guerre mondiale, la haine franco-allemande, les égyptologues français décident de continuer la guerre sur le plan scientifique en réclamant ce buste qu'ils estiment avoir laissé partir à cause d'une erreur d'appréciation de leur part. Donc oui, elle est sortie légalement, disent-ils à cette époque, mais moralement, elle nous appartient, disent les Français, elle nous appartient. En tout cas, au service des antiquités d'Égypte, ils commencent de la réclamer à partir du tout début des années 1920. Donc, voilà plus de 100 ans que le buste de Néfertiti est réclamé à Berlin.
Ouais. Est-ce qu'il ne fait pas autant partie, puisque ça fait si longtemps qu'il est en Allemagne, est-ce qu'il ne fait pas autant partie de l'histoire de l'Allemagne que de celle de l'Égypte, Bénédicte Savoie ?
Certainement, le destin de Néfertiti est un destin du buste de Néfertiti lié aussi à l'histoire de la guerre froide. Elle a été évacuée pendant la guerre de Berlin vers l'ouest de l'Allemagne, puis elle a été retrouvée par l'armée américaine. Vous savez, les Monuments Men qui ont récupéré ses œuvres. Donc, ensuite, elle a été renvoyée à Berlin ouest, dans la ville divisée, alors que son mari, Akhenaton, le pharaon, lui, était resté à Berlin est. Donc, ça a été une séparation de ce couple jusqu'à la réunification de l'Allemagne. Donc, leur histoire est une histoire allemande, certainement. Néanmoins,
ajoutons que pas mal d'Allemands se reconnaissent dans ce visage et qu'on dit que Néfertiti est devenue une sorte de symbole de l'identité allemande.
En tout cas, elle a correspondu aux critères de la beauté qui correspondaient aussi peut-être au cinéma des années 20 à Berlin. On y voit un peu Greta Garbo, on imagine toutes ces femmes aux pommettes hautes. Elle correspond à un idéal, disons, de beauté ou de féminité qui a pu avoir cours pendant la République de Weimar et dans les années qui ont suivi en Allemagne. Donc une histoire en effet très allemande, mais toujours, en fait, ces pièces de musée acquièrent, pendant leur présence ailleurs, hors de leur lieu d'origine, acquièrent des couches d'identité que les générations successives leur donnent, leur attribuent. Donc voilà, la Greta Garbo, l'icône Berlin-Ouest, etc., etc. Et puis la République fédérale d'Allemagne l'a aussi mise sur un timbre. Donc quand on met une pièce sur un timbre, hein, comme chez nous, Marianne, on la nationalise d'une certaine manière. Donc oui, il y a ce côté allemand, mais néanmoins, le fait qu'une pièce comme celle-là, une sculpture comme celle-là, se soit hybridisée, soit devenue un peu allemande, n'empêche pas qu'elle vient d'un lieu bien concret, d'une capitale qui était la capitale Tell el-Amarna en Égypte, créée par le mari de cette reine, donc Akhenaton, l'inventeur, dit-on, du monothéisme, le premier qui a rompu avec le polythéisme des Égyptiens pour adorer le soleil. Et en fait, il faut vraiment être sur ce site, là, à Tell el-Amarna, donc dans la Moyenne Égypte, pour comprendre la place du soleil, par exemple. On ne comprend pas du tout pourquoi, tout d'un coup, on va adorer le soleil si on n'est pas bien allé à cet endroit-là, près du Nil, où Néfertiti et Akhenaton sont ultra présents, puisque leur ville est là. Cette ville existe encore sous forme de de fouilles archéologiques, mais juste à côté, il y a une vraie ville avec des vrais gens, des écoles, des enfants, des jeunes filles, des femmes âgées qui vous disent, vous savez, nous, nos grands-mères ou les femmes de notre lignée, ben, elles ont continué à avoir des pratiques qui ressemblaient à celles de l'époque de Néfertiti, par exemple des pratiques de fertilité, aller voir ou parler à tel ou tel, je ne sais quoi, dieu ou rocher, etc. Donc en fait, il y a quand même une continuité. D'abord du paysage, mais aussi des populations sur les lieux d'où ces pièces ne viennent plus. Et simplement déclarer que, ben oui, Néfertiti est une icône de la guerre froide ou une icône berlinoise, et complètement, du coup, évacuer l'autre dimension, son lieu d'origine, son paysage d'origine, les personnes qui aujourd'hui se réclament d'elle en Égypte, ben c'est faire violence à cette pièce, et c'est nous faire violence à nous aussi, Européens, de toujours ignorer ce qui se passe dehors. Et je pense que c'est vraiment très important de voir les deux, toujours, et d'en discuter.
Mais ensuite, si on voit les deux dimensions, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On délocalise cette œuvre, on la laisse sur place, on la prête
Ben, on commence par en parler. D'abord. Et ça, ça me paraît extrêmement important dans les débats qui nous occupent pendant très longtemps.
Et ce dialogue existe aujourd'hui ?
Peu. Il commence d'exister, mais les institutions qui possèdent ces pièces extrêmement rares, pendant très longtemps, pendant, disons, les 100 dernières années, ont complètement évacué le débat, n'ont pas voulu parler de ces provenances ou ont toujours affirmé la légalité de la présence des pièces pour éviter la discussion. Donc, il n'y a pas de réponse à votre question. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas encore la réponse pour tout. Il n'y aura pas une réponse standard pour tout en 2024. Mais en tout cas, parlons-en. Rappelons-nous que la richesse des musées accumulés à Berlin, Londres, Bruxelles, Tervuren, Lyon, Paris, etc. est une richesse d'emprunt. C'est-à-dire que notre luxe, notre consommation culturelle, ce que nous, on considère comme être la culture qu'on nous apprend dès la toute petite enfance, nous la devons à d'autres qui n'ont pas ces pièces-là chez eux et chez elles. Et c'est très important de savoir d'où vient notre luxe. Parce qu'à partir du moment où on sait d'où il vient, on peut soit continuer de vouloir en profiter et d'ignorer les autres, mais ça devient une décision. On décide que, bah, tant pis, s'il y a des jeunes femmes en Égypte qui trouvent que Néfertiti est le symbole de la libération de la femme après les printemps arabes et qu'elles aimeraient pouvoir être en contact avec cette reine et que, comme elles n'ont pas de visa, de toute évidence, pour venir à Berlin voir ça, elles aimeraient l'avoir chez elles.
Oui, parce qu'un des arguments souvent entendus, c'est de dire, bah, il suffit de venir voir cette œuvre à Berlin, elle est disponible et en quelque sorte, elle appartient à toute l'humanité. Vous connaissez l'argument, Bénédicte Savoie.
C'est l'idée du musée universel qui dit deux choses. Qui dit d'une part, nous conservons toutes les cultures du monde en notre sein et dans nos réserves, et on en prend soin, d'une part. Et d'autre part,
parce
tout
que
le monde
nous
y
nous
a
en sommes capables. Ça, parce c'est que l'argument nous en qui capables. Vient juste derrière.
Qui est un argument et qui est d'une certaine manière vrai aussi. On ne peut pas nier que les musées européens, occidentaux, ont mis au point des techniques de conservation de pointe pour faire durer des pièces, pour les rendre immortelles, disons, pour les sortir du temps, alors que leur vie normale, peut-être, leur aurait donné quelques centaines d'années ou quelques dizaines d'années seulement. Donc, en effet, elles sont, ces institutions, très capables d'arrêter l'exercice du temps et les traces du temps sur ces pièces. Ça, c'est vrai, on ne peut pas le nier, mais il est important néanmoins qu'elles reconnaissent comment ces pièces sont venues là. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'une fois qu'on a conscience d'où vient notre luxe et de quel vide et de quel manque il a laissé, eh ben, soit on peut continuer d'en profiter en se disant bah, « tant pis pour eux ». Ils n'avaient qu'à être indépendants en 1900, ils n'avaient qu'à pas être sous protectorat britannique et que leur sous-sol était régi par le service des antiquités d'Égypte, tant pis pour eux, maintenant c'est comme ça, et nous, on en profite. On peut dire ça, mais il me semble que quand l'opinion publique, ici en Europe, est informée et mieux informée de la provenance de ces pièces, elle peut avoir une jouissance de ces pièces plus solidaire, qu'elle pourrait considérer que les prêter longtemps, les rendre, les restituer pour toujours, que ces choses-là ne sont pas des scandales du patrimoine européen, mais peut-être des pas à faire si on veut une cohabitation douce, justement, ou plus éthique, plus solidaire sur notre globe terrestre. On n'a qu'une terre.
Ce qu'il faut souligner aussi, Bénédicte Savoie, c'est que les œuvres transloquées, comme vous dites, elles peuvent être au départ des objets de culte religieux.
Quand on parle du patrimoine africain dans les musées publics d'Europe, on parle de 500 000 pièces. 500 000 pièces, c'est considérable, seulement pour l'Afrique au sud du Sahara. Ouais. Et sur les 500 000, évidemment, il y a toutes sortes, la typologie, le genre d'objet est très différent. On a des objets de culte, on a beaucoup d'objets de pouvoir, c'est-à-dire des sceptres, des trônes, des armes d'apparat que les puissances coloniales ont prises aux puissances colonisées pour leur enlever leur pouvoir. Vous avez des objets du quotidien, vous avez en effet des choses religieuses, mais souvent le pouvoir et le religieux ne se distinguent pas vraiment. Vous avez ce que nos musées ont appelé des instruments de musique, dans leur nomenclature, dans leur catégorie, mais qui à l'origine sont plutôt, par exemple, des instruments de télécommunication, comme les tambours, qui permettent de s'envoyer des messages d'une vallée à l'autre à très très grande distance. Donc vous avez une multitude d'objets qui ont été souvent, pour ceux qui ont été exposés, réduits à leur dimension esthétique, à leur beauté, alors qu'en réalité, ils ont une pluralité de dimensions dans leur contexte d'origine.
Et parfois, ces objets sont en réalité considérés là-bas comme des sujets.
Ah, ça, c'est une très belle question et c'est une vaste question. Nous, en effet, le terme d'objet, alors à la radio c'est difficile à passer, mais c'est vrai que je l'utilise toujours entre guillemets, le terme d'objet est un terme qui rend ces choses de musée passives. Il y a les sujets, c'est nous, ensuite il y a des verbes, on montre, et puis il y a l'objet, on montre le buste de Nefertiti, si on veut. Même dans nos phrases, dans nos syntaxes, l'objet est dépendant du sujet qui est nous. Or, dans les recherches qu'on mène actuellement, et notamment dans le contexte qui m'est le plus proche actuellement, celui du Cameroun, on voit bien que ces pièces-là, ce sont elles qui agissent les sociétés autour d'elles. On leur parle, elles répondent, elles ont un pouvoir, et bien souvent elles ont un pouvoir sur nous. Alors, ces dernières années, j'ai pris l'habitude de les appeler sujets, mais les plus jeunes qui travaillent sur ces questions, et notamment sur le continent africain, n'aiment pas non plus sujets. Parce qu'ils trouvent que sujet, il y a aussi l'idée d'assujettissement. Alors ça ne marche pas. On s'est mis à chercher d'autres mots, par exemple des entités, pour leur donner une sorte de force, mais qui ne serait pas formelle. Mais d'autres arrivent, et toujours, et c'est très important pour moi, je suis prof, donc c'est très important pour moi de bien écouter les générations qui arrivent, et de voir comment elles réagissent aux propositions qu'on fait, nous les vieux, entre guillemets. Les plus jeunes qui arrivent, et qui ont déjà grandi dans le débat sur les restitutions, qui court déjà depuis 5 ou 6 ans, le second débat, le premier ayant eu lieu dans les années 80. Donc c'est ces jeunes personnes de 20 ans aujourd'hui qui, quand elles avaient 15 ans, ont commencé à entendre parler de restitution, etc., nous disent « Non, mais ce ne sont pas des entités, ce ne sont pas des sujets. Objets, de toute façon, ça ne marche pas non plus. » Parce qu'en réalité, leur pouvoir, il est relationnel. C'est quand vous chantez avec elles, c'est quand vous les frappez et qu'elles émettent un rythme, un son, c'est quand vous leur parlez, c'est quand vous les mettez en lien, soit avec d'autres pièces, soit avec des gens, qu'elles exercent leur pouvoir.
Et mais c'est dire aussi le manque qui existe quand elles ne sont pas là, quand elles ne sont plus là,
ben,
ces œuvres, ces objets, ces sujets, ces entités.
Ces entités. Elles manquent au sens où la société qu'elles organisaient autour d'elles se désorganise. Et n'a plus ce centre névralgique. Parfois, c'est le cas pour la statue de Ngonso, qui est beaucoup réclamée par les Nso du Cameroun. C'est leur figure tutélaire. Et sans Ngonso, ils sont d'une certaine manière perdus. Et où est Ngonso ? Elle est dans une vitrine à Berlin. Et quand le roi des Nso est venu à Berlin, tout de suite, il lui a jeté autour du cou, à une certaine distance d'elle, mais il lui a jeté un collier en végétaux, de feuilles sacrées. Donc, il a créé un lien avec elle, avec la nature. Il a chanté, tout ça c'était dans l'espace abstrait du musée, mais on comprend un peu mieux la perte de relationnalité de ces pièces quand elles sont réduites à leur beauté, entre guillemets, dans nos musées. Et c'est pour ça que c'est important de parler de restitution, c'est aussi la restitution, donc on l'a évoqué longtemps tout à l'heure, du savoir sur la provenance de ces pièces, mais c'est la restitution aussi de mémoire, de pratique, de langage, de faire avec, d'être avec, qui ont été oubliés dans bien des cas.
C'est avec Félouine Sarr que vous avez réalisé le rapport sur la restitution des œuvres d'art africaines. Félouine Sarr qui pense et espère que l'Afrique va redevenir le poumon spirituel du monde. Écoutez.
Pour moi, le spirituel, c'est la vie de l'esprit. C'est quelque chose de vaste. Ce n'est pas la vie religieuse. La vie religieuse est une portion congrue. La poésie est une activité spirituelle. La littérature est une activité spirituelle, comme la peinture est une activité spirituelle.
La rencontre avec un arbre aussi.
C'est une activité spirituelle. Tout ce qui lève la vie de l'esprit et qui élargit comme la possibilité des mondes. Et lorsqu'on regarde les cultures africaines, j'ai le sentiment qu'elles mettent ça au cœur de leur rapport à la réalité. Et que fondamentalement, si on sort de l'Afrique, je pense que la question de la vie qui se pose à nous, c'est la question de la finalité de l'existence humaine. Quoi. Pourquoi vivons-nous ensemble? Pour quelle fin? Et il me semble que les fins que se donnent la beauté, la poésie, l'harmonie, etc., etc., la paix intérieure, le sublime, ce sont des fins que les humains partagent, quel que soit leur vernis culturel. Et que c'est une civilisation de l'esprit, de cet esprit-là, c'est vers ça que l'on doit tendre.
Félouine Sarr en 2023, est-ce que vous le rejoignez, Bénédicte Savoy?
C'est un très bel extrait que vous avez choisi là, et la pensée de Félouine Sarr est une pensée très puissante. Je lui suis très reconnaissante de m'avoir, d'une certaine manière, initiée à une partie du continent africain, comme beaucoup d'Européens, et peut-être que vous en faites partie. J'ai grandi ici au moins jusqu'à la moitié de ma vie sans avoir m'être même penché sur la carte de l'Afrique, sur les frontières des pays, etc. Et en 2018, quand j'ai eu le grand privilège de travailler avec Félouine Sarr et d'être avec lui sur le continent africain pour aller à la rencontre des responsables de musées, d'intellectuels, d'artistes, etc., ça a été une entrée par le haut, disons, sur le continent africain, avec cette pensée très puissante de Félouine, ce qu'il décrit là, sur sa métaphore du poumon spirituel de l'humanité. Je peux absolument le partager depuis que moi-même j'ai cette chance, avec le privilège de la mobilité que j'ai, avons, nous les Européens, de fréquenter de manière beaucoup plus intensive certaines régions d'Afrique. Et on voit bien que cette spiritualité, cette relationnalité, l'idée de faire humain ensemble, elle est plus puissante dans de nombreuses régions d'Afrique que dans nos villes du nord de l'Europe, disons.
Et elle vous semble nécessaire, cette spiritualité, parce qu'à un moment dans votre livre, vous vous demandez si en Europe, nous n'avons pas, et je vous cite, une spiritualité qui se contente de peu.
On est d'accord avec la séparation des choses. Ici, on y a été habitué depuis au moins le XVIIIe siècle. On sépare les catégories d'objets, on sépare les catégories de personnes, on sépare les disciplines scientifiques, on sépare la nature de la culture. Et la spiritualité, ou même la religion, c'est le lien, c'est faire du lien, c'est créer du lien. Donc si vous me demandiez tout à l'heure pourquoi c'est important, mais c'est une question de survie. C'est-à-dire que dans la séparation toujours plus systématique de ce qui fait nos lieux d'être, nos villes, nos vies, nos familles, le fait d'être séparés des générations, etc., ça ne nous amène pas à être plus forts, ça nous amène à être plus faibles et plus fragiles en réalité. Et donc il y a une urgence absolue à refaire, à créer du lien, non seulement par la parole, mais aussi par des actes symboliques ou politiques ou par des lois qui permettent que cette éthique de la relation prenne une place beaucoup plus importante à l'intérieur de l'Europe, mais surtout que l'Europe réapprenne à s'ouvrir, parce qu'on là, on est en train de s'étouffer nous-mêmes.
La spiritualité, ça relie ?
Bah oui. Félouine Sarr le disait très bien à l'instant. C'est des choses, dit-il, le goût du beau, la paix intérieure que les sociétés partagent. Ce sont des valeurs que nous partageons. Quel que soit ensuite, comme il dit, le vernis culturel qu'on met dessus ou le nom du Dieu qu'on met dessus.
Merci Bénédicte Savoy d'avoir été avec nous à Qui appartient la beauté. C'est votre nouvel essai et c'est aux éditions de La Découverte. Merci pour cette conversation.
Merci à vous.
Et Dieu dans tout ça ?
Sur la première.
Et il est temps de vous dévoiler un nouveau mot, un nouveau concept issu de notre grand dictionnaire. Aujourd'hui, l'initiation. Et avec nous, Jean-Philippe Schreiber. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Pascal.
Vous êtes professeur à l'ULB, fondateur de l'Observatoire des religions et de la laïcité. Et vous nous initiez donc à la compréhension de l'initiation. De quoi s'agit-il, Jean-Philippe ?
Je vais tenter de vous initier.
Allez.
Et le terme a son importance, parce qu'évidemment, ce terme renvoie à son étymologie latine, initiatio, et je crois qu'il rend bien compte de ce dont on parle. Initiatio, le commencement, le début de quelque chose, le début d'une nouvelle vie, en quelque sorte, puisque la personne qui va être initiée, dans une série de contextes très variables, eh bien, cette personne va commencer une nouvelle vie, va abandonner ses habits anciens pour en endosser d'autres, pour connaître une sorte de résurrection. C'est la mort de quelque chose en nous pour accéder
une
à une nouvelle vie. Une renaissance, une régénération. Une renaissance, vous avez tout à fait raison, le terme est tout à fait indiqué pour rendre compte de ce changement, de cette transformation, de cet accès à un autre statut. Ça peut être un statut social, ça peut être un statut spirituel, ça peut être un statut en termes de connaissances. Il y a une série comme cela d'initiations qui, à chaque fois, reprennent cette symbolique de la mort et de la renaissance.
Initiation accompagnée de rites ?
Accompagnée de rites qui, quelquefois, peuvent être des épreuves physiques et qui, dans certains contextes, sont des épreuves plus symboliques où l'on a abandonné les rites davantage de nature physique. Alors, bien sûr, les initiations tribales auxquelles on songe le plus volontiers et qui, dans certaines sociétés traditionnelles, marquent l'entrée dans la vie adulte, sont souvent marquées par des épreuves physiques et par, quelquefois même, on pense aux scarifications notamment, par quelque chose qui se marque dans le corps de l'initié. Parce qu'évidemment, le corps joue un rôle important de ce point de vue. Mais il y a des initiations davantage spirituelles l'épreuve est davantage symbolique ou métaphorique, où on accède à quelque chose d'autre par des épreuves symboliques qui sont supposées jouer le même rôle et la même efficacité que les épreuves physiques. On peut parler de l'initiation des francs-maçons, notamment. L'initiation joue un rôle important, essentiel, crucial, dans l'entrée en franc-maçonnerie d'un homme ou d'une femme qui a choisi cette voie-là. Et l'initiation est le début de quelque chose de nouveau à travers des épreuves qui sont essentiellement symboliques, mais qui sont supposées avoir un impact fort. Parce que dans toutes les sociétés, qu'elles soient secrètes ou pas, qui vivent l'initiation et qui proposent l'initiation, il y a une sorte d'illumination au sens spirituel du terme, c'est-à-dire que... Un éveil spirituel, on reçoit une lumière. Illumination, on reçoit une lumière, et donc on a en quelque sorte accès à une autre connaissance de soi. C'est à la fois un moment initial, et puis ce moment initial, cette initiation, se perpétue tout au long de la vie de l'impétrant, que ce soit dans une société traditionnelle africaine, sud-américaine, ou dans la franc-maçonnerie, ou même d'une certaine façon dans d'autres sociétés secrètes ou pas secrètes, qui sont influencées par le même bagage traditionnel et mental. Je pense notamment au compagnonnage, parce que l'initiation, ça peut être aussi l'accès à un nouveau métier à travers une série de rites et une série d'expériences. L'initiation peut se connaître aussi dans ce cadre-là.
Et le bizutage, c'est une forme d'initiation ?
Alors, très édulcoré, même si on sait que certains bizutages sont en quelque sorte influencés par ce que les sociétés secrètes ont véhiculé au cours des âges. Mais enfin, je crois que là, c'est une version tellement édulcorée qu'on ne peut pas parler de la même chose, parce que l'initiation, eh bien, ça renvoie à un bagage historique très ancien. On retrouve ça dans le monde méditerranéen, dans l'Antiquité, les cultes à mystère, que sais-je. Donc il y a là quelque chose qui quand même est considéré comme fondamental pour transformer l'individu qui passe à travers ce rituel.
Merci Jean-Philippe Schreiber pour ces explications. Bonne journée.
Bonne journée à vous.
Et Dieu dans tout ça,
sur la première.
J'espère que vous avez aimé ce numéro des Dieux dans tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire et à nous offrir quelques bonnes étoiles. C'est précieux. Ça permettra à plus d'oreilles encore de nous écouter. Un grand merci et à très vite.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.